France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Pour cette dernière des carnets de la semaine, je vous soumets encore une création d'entreprise que l'on doit à deux jeunes étudiants en école de commerce, Paul et Octave, et qui apporte une solution aux cyclistes qui, particulièrement en ville, se font chaparder leur vélo ou qui rencontrent des difficultés à les garer. La plateforme salvatrice s'appelle Vélom. C'est Octave qui répondra à nos questions. Mais tout d'abord, nous saluons un nouveau partenaire d'échange de bonnes idées en la personne de Julien Dezéco, qui dirige la publication du magazine bimestriel Sans Transition.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Julien Dezéco, bonjour.
Bonjour Philippe.
Comme j'ai dit, bienvenue chez nous, puisque vous êtes notre nouveau partenaire de jeu. On va échanger les bonnes informations. Vous qui, depuis 2011, avec la SCOP, la Maison des Possibles, avait créé un magazine bimestriel, donc qui paraît tous les deux mois, qui s'appelle Sans Transition. On va parler d'ailleurs prochainement en détail du numéro qui est sorti de septembre à octobre. C'est une revue engagée du local au global. Donc tout est né il y a maintenant 10 ans à l'association Bretagne Durable.
Tout à fait. L'idée est partie du Finistère, où nous étions journalistes engagés sur les questions de l'écologie, de l'environnement. Et comme vous, Philippe, on constatait déjà toutes ces initiatives qui commençaient à fleurir autour de l'écologie et petit à petit des transitions au niveau sociétal, et cette transformation sur les territoires, en région. Et on a voulu faire la valorisation de toutes ces belles actions.
Ouais, quelle place prendre lorsqu'on lance un tel magazine au milieu de l'ensemble du bouquet de propositions, de supports, d'informations qui touchent, entre autres, ce type de sujet?
On a voulu proposer vraiment une dimension locale prioritaire. Ça, c'était déjà il y a 10 ans notre logique. On commençait par les territoires, voilà, en Bretagne, puis en Provence, en Occitanie, en Auvergne-Rhône-Alpes et aujourd'hui sur l'ensemble des régions. Donc c'était vraiment notre état d'esprit de partager au niveau local. Et ça, c'était notre différence aussi. Mmh.
Je signale que vous revendiquez, mais quand on est SCOP, on s'appuie sur ce type d'économie, l'économie sociale et solidaire. Ça va jusqu'à l'alimentation des ordinateurs à énergie verte. Et vous êtes également sociétaire de la banque coopérative La Nef.
Exactement. Entre autres choix que nous opérons, nous coopérateurs salariés, on est une dizaine de salariés dans la coopérative. Et notre objectif, c'est d'essayer aussi d'être en cohérence entre ce qu'on raconte dans le magazine et puis les actions de notre quotidien.
Vous êtes parti d'un principe de 4 éditions régionales, Auvergne-Rhône-Alpes, également Bretagne, Occitanie et Provence. Pourquoi ce partage? Pourquoi ce choix?
Des parcours de vie qui se croisent aussi à des observations dans des territoires très marqués sur ces questions. Je prends Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. On sait que du côté de Lyon, du côté de Grenoble, du côté de Clermont-Ferrand aussi, maintenant, il se passe beaucoup, beaucoup d'actions. La Bretagne, j'en ai déjà parlé. La Provence est une région où il y a de plus en plus de transformations qui se mettent en œuvre. C'est toutes ces observations et puis nos parcours de vie des uns des autres au sein de l'équipe coopérative qui a façonné ces choix.
Et aujourd'hui, vous donnez à Sans Transition aussi une version nationale.
En effet, depuis mai dernier, on a voulu aller encore plus loin, une nouvelle étape de ce déploiement dans les territoires avec une édition nationale, donc sur les 8 autres régions, pour pouvoir aussi essayer d'apporter notre différence encore un peu plus loin.
Le numéro de septembre-octobre a pour titre « Argent public, quel choix citoyen ?» On parlera prochainement avec vous d'un sujet, en fait, il s'agit d'une enquête que vous avez menée sur les budgets participatifs, démagogie ou véritable outil démocratique. Dans chaque numéro, on a un découpage type. D'abord, Les Échos d'ici et d'ailleurs, en ouverture.
Oui, ce sont des actualités vraiment très locales.
Un ancrage local sur un thème aussi, là en particulier sur le numéro qui sort, les fermes pédagogiques en ville, elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. Un portrait militant aussi dans chaque numéro.
Oui, ça c'est important de porter la voix de celles et ceux qui, depuis longtemps, ces pionniers qui, que vous aussi, au sein de Carnet de Campagne, vous leur donnez la parole régulièrement. Donc voilà, on a envie, nous, de les mettre à l'honneur aussi.
Oui. Un entretien, il y a une enquête donc, dont on va parler prochainement des budgets participatifs. Un dossier, apprendre à changer le monde, et un autre sur la méthanisation. Et comme vous ne vous gênez pas pour avoir aussi un esprit critique, entre parenthèses, il y a de l'eau dans le gaz.
Oui, ça fait partie de notre ligne éditoriale. On n'est pas là pour raconter que des belles histoires, même si on a envie d'abord de raconter des belles histoires, mais on se doit aussi d'avoir une critique constructive autant que faire se peut, mais parfois, voilà, la méthanisation, il faut aussi mettre l'épée dans le plat et montrer à travers des propos scientifiques, économiques, étayés, les limites de certaines fausses bonnes idées.
Et à chaque numéro, évidemment, conclusion aussi une revue de presse pour vous tenir en courant. Le site, c'est 100-transition-magazine.info. C'est évidemment une adresse que vous allez entendre assez régulièrement dans les carnets de campagne. Sans transition, est en kiosque ou sur abonnement uniquement?
Les deux, pour essayer de toucher un public le plus large possible, et aussi dans librairie, magasins spécialisés et bien sûr sur Internet.
La revue engagée du local au global avec Julien Dezeco, directeur de publication Sans Transition. À très vite, Julien.
Merci beaucoup, Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Nous recevons régulièrement des courriers de responsables et d'acteurs de la culture qui tentent de conjurer le mauvais sort. Et ça ne manque pas depuis plusieurs mois en inventant des démarches de création et en imaginant de nouvelles formes d'expression. C'est le cas à partir de demain, samedi, avec l'inauguration des quatre saisons de la chapelle Bouexic, petite commune d'Ille-et-Vilaine au nord de Redon. Les quatre saisons sont quatre parcours poétiques et permanents, en extérieur, à suivre à pied ou en vélo, avec sur chaque itinéraire des installations plastiques et sonores en correspondance avec les paysages traversés. Prévus pour une ouverture au public en juillet, les conditions sanitaires ont poussé les organisateurs à décaler au 11 septembre le lancement du projet. Or, celui-ci se décline donc en quatre saisons, quatre thématiques, la beauté, la curiosité, l'interdépendance et l'émerveillement, autant de thèmes qui nous échappent depuis un bon moment et qui méritent d'être revisité en ce moment. L'un des parcours imaginés sous la forme de chemin de l'hiver a été conçu avec les habitants qui ont participé à des ateliers menés par les inventeurs de cette démarche, à savoir la compagnie de théâtre Tra le Mani. Je l'ai dit avec l'accent parce que ça veut dire entre les mains en italien. Sur ce parcours, 11 scènes paysages sont à observer, puis il y a des bornes d'écoute, des témoignages d'habitants qui sont proposés aux marcheurs. C'est plus poétique de dire marcheurs que randonneurs. Le projet s'inscrit dans une programmation culturelle et citoyenne élaborée par un groupe d'artistes et d'habitants avec à la clé des spectacles vivants qui célèbrent chaque saison. Le site de la compagnie, c'est tralemani.com, et puis le site de la commune, La Chapelle Bouexic. .fr. Je souris d'ailleurs à la pensée de ce village, dont une archive de l'INA que j'ai pu regarder, datée des années 80, présentait un exemple type de la désertification des campagnes avec ses quelques 700 habitants. Aujourd'hui, le village en compte le double. C'est peut-être un signe. Octave Clédjance, bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre invention, encore un nouveau service. Et à chaque fois, je dis, c'est merveilleux, il y a plein d'initiatives et il y a des services pour les particuliers. Puisqu'avec Paul Ravet, vous avez décidé de créer une plateforme, c'est la première du genre, si je ne m'abuse, en France, de parking vélo sécurisé entre particuliers, que vous appelez Vélom, V-E-L comme le vélo, et Home, H-O-M-E, pour héberger ces vélos. Vous avez lancé l'opération à Rouen, en partant d'une évidence, et d'ailleurs c'est terrible comme chiffre, plus de 1000 vélos sont volés chaque jour en France.
Oui, plus de 1000 vélos sont volés chaque jour en France, donc le vol c'est aujourd'hui le frein numéro un au déploiement du vélo. C'est pas moins de 56% des cyclistes qui ont déjà été victimes de vol, et face à ça, on était un petit peu dans le manque de solutions, et c'est pour ça qu'avec mon associé, on a eu cette idée de permettre aux cyclistes de ne plus laisser leur vélo dans la rue, mais d'aller le garer chez des particuliers dignes de confiance qui seraient d'accord pour les accueillir et ainsi lutter contre le vol de vélo.
Ouais. Vous avez expérimenté le principe sur Facebook, mais vous avez vu que très rapidement, ça allait bien au-delà des capacités d'hébergement et de mise en relation par Facebook.
Oui, complètement. complètement. On avait commencé du coup à Rouen avec un groupe Facebook qui a très rapidement grandi sur quelques mois, et ensuite on a été contraint d'aller sur une plateforme, du coup sur un site internet qui s'appelle velhomme.co, velhome.co, qui aujourd'hui permet de mettre en relation automatiquement des cyclistes et des hôtes dans toutes les villes en France, mais aussi un peu en Belgique et en Suisse.
Et cet hébergement se fait gratuitement ou c'est négocié entre le propriétaire du vélo et le particulier ?
Alors là, c'est en fonction de l'hôte. Celui qui accueille le vélo, c'est lui qui décide. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, la plupart des gardiennages se font gratuitement, simplement par solidarité entre cyclistes. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit des transactions monétaires qui se font entre nos utilisateurs. Parfois, c'est simplement, par exemple, un petit cadeau, un paquet de bière, par exemple, comme il s'est fait hier, par exemple. Mais c'est vrai que c'est, pour l'instant, ça peut être des transactions monétaires, mais la plupart du temps, il n'y en a pas forcément.
Octave, est-ce que vous avez la possibilité de superviser et de plafonner les transactions qui se font entre les propriétaires de vélos et les particuliers qui les hébergent ?
Alors aujourd'hui, la plupart des transactions n'excèdent pas les 2 € par jour pour un stationnement vélo. Et d'après les échanges qu'on a eus avec nos utilisateurs, ça arrivait quasiment jamais que ces prix soient supérieurs à 2 € par jour. Comme je vous disais, aujourd'hui, la plupart des stationnements se font encore gratuitement. Mais en tout cas, on tient à ce que les prix ne soient pas trop excessifs sur la plateforme vélo.
Avec Paul, vous avez testé l'idée à Rouen. Et ensuite, vous l'avez développée dans d'autres villes en France, mais aussi, je vois, en Belgique et en Suisse.
Effectivement, oui, depuis le mois de mai, on a lancé une plateforme velhomme.co qui maintenant est disponible du coup dans 3 pays, en France, en Belgique et en Suisse, avec aujourd'hui plus de 500 utilisateurs. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui permet aux cyclistes petit à petit de lutter contre le vol de vélo.
Oui, alors ça peut être possible d'utiliser Velhomme si par exemple on fait un circuit cyclotouristique pendant quelques jours, quelques dizaines de jours, voire un mois l'été, mais ça peut être aussi le vélo qu'on utilise pour aller au travail et de trouver un particulier au plus proche de son lieu de travail.
Oui, complètement. En fait, je dirais que le gros avantage de Velhomme, c'est qu'il y a vraiment une flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut être mis en relation avec des hôtes qui peuvent, chez qui on peut stationner notre vélo pour du stationnement à la fois régulier ou ponctuel. Donc il y a différents cas d'usage, comme vous l'avez dit, ça peut être lors d'une visite en cyclotourisme, ça peut être pour aller au travail chaque jour en le laissant chez quelqu'un qui habite proche de son travail. On a réussi aussi à mettre en relation des voisins, par exemple quelqu'un qui n'avait pas des espace chez lui pour garer son vélo la nuit. Maintenant, il le gare chez son voisin. Il a le badge de chez lui. Et puis sinon, tout simplement, aller faire des courses en ville, ponctuellement, une après-midi. Maintenant, grâce à Velhomme, il est possible de garer son vélo chez quelqu'un.
La plateforme pour loger son vélo hébergé et trouver un parking sécurisé chez les particuliers. Le site, c'est Velhomme, donc velhomme.co. Merci Octave.
Tout à fait. Merci beaucoup à vous.
Bonne journée. Et des remerciements aussi, comme chaque vendredi, tout d'abord à Joël Levert qui apporte du contenu au carnet. Merci aux techniciens et techniciennes de France Inter qui leur donnent du volume et du relief, en particulier Tiffany Battistel aujourd'hui. Avant de rejoindre le jeu, un petit mot sur les prochains départements qui seront traversés par le jeu et depuis lesquels vous pouvez nous écrire pour nous faire connaître les initiatives innovantes et les solutions du côté de chez vous, en particulier, je cite, la Haute-Saône, les Vosges, les Alpes-Maritimes, le Var et le Gard. Haute-Saône, Vosges, Alpes-Maritimes, Var et Gard. Évidemment, vous pouvez nous écrire également de tous les autres départements. Midi 46 sur France Inter. Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros, c'est la dernière à Grand Village Plage.